Voilà, ben, merci de me donner l'occasion de présenter ce travail. Ben, je dois dire, avant de commencer, que c'est un travail que je n'ai pas fait seul. En fait, la présentation est basée sur un papier que j'ai rédigé il y a quelques années avec Melouki, qui est membre du CRIFEU. C'est basé également sur une recherche à laquelle Clermont Gauthier a participé. Et je vois Sylvie Bidiang qui a beaucoup travaillé sur ce projet, que j'essaye de mettre à jour, en fait. Ça, c'est l'apport, parce que l'étude s'est terminée en début 2006, et je suis resté en contact avec les équipes nationales avec lesquelles on a travaillé pour continuer, dans la mesure du possible, à mettre les données à jour sur certaines questions. Au départ, cette question de transformation du corps enseignant n'était pas du tout dans nos préoccupations lorsqu'on a commencé l'étude. C'est une étude qui a été commanditée par la Banque mondiale. À l'époque, j'étais à l'UQAM et on a collecté les données et on s'est rapidement rendu compte qu'il se passait quelque chose au niveau du corps enseignant, en lien avec des politiques qui avaient été mises en place. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est d'explorer les effets des politiques de recrutement sur la formation, sur le corps enseignant dans les pays concernés. Je vais d'abord brièvement mettre la table en parlant du contexte, de la problématique qui a amené cette étude et passer l'essentiel à partir du point 5, l'évolution du corps enseignant dans les pays participants, et terminer avec ce que j'appelle des pistes possibles d'action et de réflexion. C'est des pistes qu'on avait présentées aux autorités des ministères de l'éducation des pays concernés. Donc là, pour mettre la table, j'ai sélectionné une citation qui me semble très intéressante d'un document de l'UNESCO qui, en fait, donne une indication d'une certaine mobilisation que je pourrais appeler internationale pour faire avancer l'éducation dans les pays en développement. Et la dernière phrase est particulièrement importante parce que dans certains pays, ou en tout cas certaines zones de certains pays, en l'absence justement du système éducatif formel, la prise en charge de l'éducation est faite par des groupes ou des personnes, disons, peu recommandables pour les ministères. Je pense par exemple au cas du Mali, où la région nord est délaissée en termes d'éducation, et cette zone est occupée par des groupes religieux qui, dans une certaine mesure, prennent prisonniers des enfants en leur inculquant des attitudes, des connaissances qui, socialement ou politiquement, ne sont pas acceptables. Ça a l'air anodin, mais l'idée que c'est dangereux qu'il y ait encore des nantis et des déshérités en matière d'éducation est à prendre au sérieux. Donc, ce qu'on constate, c'est que depuis 1990, particulièrement, il y a cette mobilisation de la communauté internationale pour développer l'éducation dans les pays dits en développement. Et tout a commencé avec la conférence en Thaïlande en 1990, une conférence organisée par l'UNESCO, le PNUD et la Banque mondiale. Et au sortir de cette conférence, il y a eu une déclaration avec l'idée qu'on atteindrait la scolarisation primaire universelle en 2000. En 2000, ils se sont retrouvés à Dakar pour faire le bilan. Un constat d'échec a amené à prendre d'autres engagements en 2000, et les engagements ont comme échéance de 2015. Et la même année, à New York, au sommet, à la conférence générale de l'ONU, les objectifs du millénaire pour le développement ont été arrêtés et toute la communauté internationale a souscrit à ces objectifs. Donc, j'ai déjà parlé du constat d'échec, mais le nouvel engagement pris à Dakar, c'est que il faut mettre l'accent sur la qualité. Ce qui s'est passé après 90, c'est qu'on a beaucoup misé sur l'accroissement de l'offre, notamment au niveau des constructions, d'écoles, etc., pour accueillir le maximum d'enfants. Et somme toute, les aspects qualitatifs ont été délaissés. Il y a eu une critique assez forte par rapport à cela. Et à Dakar, les participants sont entendus qu'effectivement, il faut que la qualité et l'accès soient conjugués si on veut faire avancer. Autrement dit, dans un contexte où on développe seulement au plan quantitatif, on a constaté effectivement que des parents retirent les enfants tout simplement parce que l'éducation qui est offerte n'est pas pertinente pour eux, ne permet pas aux enfants en tout cas de sortir de leur situation parce que les parents envoient les enfants pour espérer que les enfants ne seront pas comme eux, confinés à des emplois avec une rémunération non conséquente. L'accent sur la qualité a commencé en tout cas à prendre un peu plus d'espace à partir de 2000 et la déclaration du millénaire également. Il y a 8 objectifs, mais il y a 2 qui portent particulièrement sur l'éducation. Cet objectif est en fait un des objectifs de Dakar, c'est l'universalisation de la scolarisation au primaire et surtout l'instauration de l'égalité entre sexes en matière d'éducation. Donc, quand on met tout cela ensemble, ça pose des défis importants pour les pays en développement. Et le défi le plus important dont les gouvernements se sont rendus compte très rapidement, c'est la question enseignante. Comment est-ce qu'on peut augmenter les effectifs enseignants tout en améliorant la qualité du corps enseignant? Puisqu'on veut une éducation de qualité. Mais le défi est particulièrement important en Afrique subsaharienne, surtout francophone. Et là, c'est des données qui ont été compilées au début des années 2000, où on voit les besoins, c'est-à-dire à partir des projections, des données de 85. 2000, ils ont fait des projections jusqu'en 2015. Qu'est-ce que ça prendrait? On se rend compte que l'Afrique, les pays francophones d'Afrique, avaient une marche très haute à monter, c'est-à-dire un accroissement annuel moyen de 4,1% du corps enseignant, comparativement aux pays anglophones, où c'était seulement 2,3% et à toute l'Afrique, où c'est 3% qui était requis. Donc, cela pose une question de politique à ces gouvernements. Et la question de politique, c'est comment concilier effectivement ce besoin de déployer un grand nombre d'enseignants, comment conjuguer cela avec la question de la soutenabilité financière. On peut facilement faire des calculs. Hein. On a besoin d'ouvrir X nombre de classes. Ça prend X nombre d'enseignants. X nombre d'enseignants, ça coûte X millions de francs CFA, parce que c'est les francs CFA dans ces zones-là. Mais donc, on fait les calculs assez facilement pour se rendre compte que c'est soutenable ou pas soutenable. Donc, la plupart des gouvernements étaient confrontés à cette question assez douloureuse. Hein. De politique. Et en même temps, ce qu'on a constaté, c'est que il y avait plusieurs options possibles. Et l'option qui a été privilégiée, ou je dirais peut-être plutôt imposée par les organisations internationales, notamment les organisations financières, la Banque mondiale particulièrement, et le FMI. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la décennie 90 a été marquée dans ces pays par des programmes d'ajustement structurel. Et une des caractéristiques de ces programmes d'ajustement structurel, c'était la défonctionnalisation. C'est-à-dire qu'on dit, ben, pour avoir accès, c'est-à-dire pour assainir les finances, il faut limiter l'augmentation des fonctionnaires, sinon même réduire le nombre de fonctionnaires. Mais en même temps, on dit qu'il faut l'éducation pour tous. Comment est-ce qu'on peut en même temps réduire le nombre de fonctionnaires ou en tout cas limiter la croissance du nombre de fonctionnaires et engager les enseignants pour faire face à ces objectifs-là. Et depuis le début des années 90, ce qu'on a constaté, et qui est en lien avec ces programmes d'ajustement structurel, c'est le recrutement d'enseignants dits non fonctionnaires. On a fini par utiliser le terme non fonctionnaire parce qu'il est générique, il couvre toute une variété d'enseignants. On a des enseignants contractuels de l'État, des enseignants communautaires, des enseignants des parents, même des ONG qui recrutent des enseignants. Et on avait opté de mettre tout cela sous l'appellation enseignant non fonctionnaire. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'était une mesure initialement conçue comme temporaire, en entendant que la situation s'améliore, parce qu'on pensait que les programmes d'ajustement structurel allaient assainir, que la croissance allait revenir pour éventuellement retourner à une certaine normalité dans le recrutement et la gestion du personnel enseignant.
On parle de quel pourcentage, Martial, environ, des
non-fonctionnaires? Ah, je vais y arriver là. Okay. Oh, oui, c'est ce qui nous a frappé dans l'étude. Quand je parle de transformation ou de recomposition, c'est lié justement aux effets de cette politique. Donc, elle a été adoptée dans la plupart des pays, mais particulièrement dans les pays francophones. Et elle s'est poursuivie. Et rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que les enseignants dits non fonctionnaires, il y a une inversion assez rapide au niveau des effectifs dans plusieurs pays. Là, je donne l'exemple du Mali. Le Mali a commencé en 98 et en 2003, les non-fonctionnaires représentaient déjà 75%, alors qu'en 98, ça devait être autour de 5% de non-fonctionnaires. Mais ça pose des questions de politique et de gestion qu'on va toucher plus loin. Mais le Mali n'est pas un exemple unique, particulier. Mais c'est là où on a constaté effectivement un changement aussi drastique rapidement. En 5 ans, on a cette inversion. Donc, la Banque mondiale, qui était parmi les organisations qui ont justement fortement recommandé, pour ne pas dire imposé, cette politique, je pense était sensible aux critiques qui venaient du terrain. Et à l'époque, avec des collègues à l'UQAM, on a proposé en tout cas de mener une étude pour mieux comprendre la situation et ils ont accepté. Et on a ciblé 4 pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Niger, parce que le problème semblait très sévère dans ces pays. Donc la suite, la question principale qu'on s'est posée et qui intéressait la banque aussi, c'était que, en regardant la situation économique de ces pays, en regardant la situation socio-démographique et en regardant également la dynamique et la performance de leur système, qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration? Donc des améliorations raisonnables au système de formation, mais également au système de gestion, en vue de réaliser cet objectif auquel tout le monde avait souscrit pour 2015. 100% de taux brut de scolarisation, avec une attention à la qualité pour 2015. Donc ça soulève des questions de politique, mais des questions de gestion également importantes dans ces pays-là. Donc, on s'est engagé dans une étude plutôt exploratoire pour voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc on a voulu savoir qui sont les enseignants dans ces pays, comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils sont encadrés, comment est-ce qu'ils sont gérés, qui sont les formateurs, les limites, les problèmes, les difficultés observées dans la formation et la gestion. Et il y avait quand même un certain nombre de réformes en cours. Tout cela coïncide également avec l'implantation des politiques de décentralisation dans ces pays-là depuis le début des années 90. Quelques réformes au niveau de la formation des maîtres. Donc on voulait comprendre est-ce que ces réformes ont pu offrir des réponses à ces défis et qu'est-ce que les bénéficiaires et les acteurs suggèrent pour améliorer la situation. Donc au plan méthodologique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on a surtout misé sur des études de cas national. Donc dans chaque pays, on a mis en place avec les écoles normales supérieures qui correspondent à peu près aux facultés d'éducation, des équipes Clermont, Melouki et moi avons encadrées pour la collecte des données. On a fait une revue de littérature, notamment c'est Clermont qui a dirigé cette revue de la littérature, un atelier méthodologique, ensuite un atelier de partage des résultats préliminaires à mi-parcours. Et notre rôle a été surtout de faire la synthèse à partir des études de cas et la présentation est basée sur cette synthèse-là. Et les équipes ont également fait des ateliers nationaux. Ils appellent ça des ateliers de restitution. En fait, c'est pour restituer les résultats. En fait, c'est de partager des résultats au plan national avec les acteurs politiques et autres. Donc, pour les études de cas, voici à peu près ce qu'on a collecté comme données. On a voulu avoir des données comparables autant que possible. Vous allez constater que c'est pas toujours. On n'a pas pu avoir des données comparables sur tous ces points, mais on voulait comprendre l'environnement, le système scolaire, les caractéristiques professionnelles et sociodémographiques des enseignants, avoir des informations sur le système de formation initiale et continue dans ces quatre pays et également le système de gestion et de supervision des enseignants. Mais quand même, on s'était entendu d'utiliser cette instrumentation. Dans chaque pays, on voulait toucher à peu près 1200 enseignants en exercice, des élèves maîtres, des directeurs d'école, des entrevues avec des directions d'école, avec des responsables de structures déconcentrées, c'est-à-dire les directions régionales ou provinciales selon le pays, avec des formateurs d'enseignants, des directeurs d'école de formation initiale des enseignants. On a également cherché des données économiques sur ces pays et on avait associé un économiste de l'éducation à l'étude pour nous proposer un modèle de simulation des effectifs et des coûts de fonctionnement de l'enseignement primaire dans ces pays-là. Ah non, c'est ils sont allés vraiment, c'est-à-dire dans chaque pays, on a ciblé les régions où il fallait aller. Donc, c'est pas limité à la capitale. Ils sont vraiment allés à l'intérieur pour avoir les données. Voilà. Cela dit, nous n'avons pas eu nous-mêmes la possibilité d'aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a rencontré les chercheurs au niveau des capitales pour s'entendre sur la méthodologie, développer les instruments ensemble et chaque équipe nationale devait ensuite s'organiser pour aller collecter les données. Et ça, c'est une limite aussi parce que le contrôle de la qualité n'est pas évident. Effectivement, on a des données souvent pas très homogènes pour certains pays. Mais en même temps, on vit avec ces contraintes-là. Donc, dans la suite, après avoir un peu mis la table, je rappelle un peu les points. C'est les changements concomitants dans la formation initiale. Je vais en parler. Les effets des politiques, c'est surtout à ce niveau que je pourrais m'attarder et terminer par les pistes. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a voulu comprendre un peu comment les effectifs ont évolué dans ces quatre pays. À partir de 97-98 jusqu'en 2002-2003, j'ai tard essayé d'avoir des données plus récentes, je vais y arriver. Mais ce qu'on constate, c'est que dans chacun des pays, il y a eu une évolution assez rapide, particulièrement au Mali et au Sénégal, mais surtout au Mali. On a constaté effectivement une sorte de poussée très rapide du nombre d'enseignants. Et la mise à jour que j'ai faite il y a 2 ans, on constate effectivement que le Mali et le Sénégal, la poussée continue, plus lent au Niger et le Burkina, en fait, qui rattrape un peu. C'est un cas intéressant à partir de 2002-2003 à cause d'une réforme globale de l'administration publique. C'est un pays qui a résisté pendant longtemps à la contractualisation ou à la défonctionnalisation. Mais ils ont fini par céder en 2002-2003 et on constate effectivement cette à partir de 2003 dans ce pays. Donc, comment est-ce qu'on peut, et là, je vous mets simplement les accroissements annuels. Vous vous rappelez le tableau, je parlais de 4,1% dans l'Afrique francophone en général. Le Mali, en 5 ans, a quand même maintenu un accroissement annuel moyen de 18,2%. C'est 4 fois plus que les projections l'entendait, le Niger 12%, et on constate pour le Sénégal et le Burkina, c'est les deux pays qui étaient quand même le plus proche des projections pour l'Afrique francophone, notamment. Donc, on a voulu savoir comment est-ce qu'on peut expliquer les différences observées entre ces pays. Et la différence ou les différences s'expliquent au niveau des changements dans cette catégorie des enseignants dits non fonctionnels. En fait, c'est assez banal, hein, mais c'est vraiment cette politique de contractualisation, de défonctionnalisation qui a permis à ces pays, prends le Mali, on voit que en 97, 98, les fonctionnaires représentaient 70% plus hein, du corps enseignant. Et quand on se... en 2003-2008, ils sont à peu près à 25%. C'est cette inversion qui nous avait frappé pour ce pays en particulier. Mais on constate que dans les autres pays aussi, le nombre de fonctionnaires est en baisse comparativement au nombre d'enseignants non fonctionnels. Sauf le Burkina, parce qu'eux résistaient à la défonctionnalisation. Il y a eu beaucoup de pression, mais ils ont tenu leur bout, ben, ils ont fini par céder en 2002, mais avec un modèle qui me semble intéressant de contractualisation. La réforme globale de l'administration publique qui est entré en vigueur en 2000 dans ce pays. En fait, disons que ça a été voté en 2000 et la mise en œuvre a commencé véritablement en 2002, fait que toutes les nouvelles recrues de l'État sont désormais des contractuels. Donc c'est appliqué pas seulement à l'éducation, mais c'est à tous les secteurs, à l'exception de secteurs dits stratégique. Donc imaginez quels sont ces secteurs, c'est la police, c'est l'armée, qui sont des secteurs dits stratégiques. Eux, on continue de recruter des fonctionnaires. Mais dans tous les autres secteurs, depuis 2003, c'est des contractuels qui sont recrutés. Ils sont appelés des contractuels de l'État. Okay. Et ce que le Burkina a fait également, on va le constater plus loin, au niveau du traitement salarial, ils ont quand même réussi à presque une parité entre les contractuels de l'État et les fonctionnaires qui sont titulaires d'emblée. Alors qu'on va le constater dans les autres pays, les différences sont assez importantes dans le traitement salarial. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on se retrouve dans la même école avec des différentes catégories d'enseignants qui font le même travail, mais des écarts très importants en termes de traitement salarial. Donc ça crée des dynamiques particulières dans les écoles. Cela crée également des dynamiques particulières dans les communautés qui accueillent ces enseignants. Je vais en parler également. Et j'ai fait la mise à jour en 2009 pour constater que ça se poursuit. Et au Mali, et là ça devient beaucoup plus criant, ils sont presque à 87% à peu près d'enseignants non fonctionnaires. Donc c'est la catégorie dans laquelle on retrouve les enseignants communautaires, les contractuels de l'État, les enseignants des parents, des enseignants qui sont recrutés par des ONG, etc. Et on voit que le Burkina aussi commence à rattraper en termes d'enseignants non fonctionnaires, dû justement à cette réforme globale de 2002. Donc, on a vu, essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques principales de ces enseignants dits non fonctionnaires en comparaison avec les enseignants fonctionnaires. Et ce qu'on a constaté à partir des données, c'est que c'est des enseignants qui ont un niveau académique relativement plus bas à l'entrée. Surtout les enseignants communautaires, dans bien des cas, c'est des personnes qui ont peut-être 8 années de scolarité. C'est-à-dire qui correspond à peu près, mais dans les pays francophones, c'est la cinquième, du secondaire, c'est les 2 années du secondaire plus 6 années de primaire. Donc, dans les zones reculées, on va prendre les plus instruits. Et très souvent, c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans les salles de classe. Et même les contractuels de l'État, à cause de politiques de gestion qui sont mises en place où systématiquement les nouveaux enseignants doivent servir au moins 3 ans en zone rurale avant de demander une affectation. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans ces zones rurales ou éloignées avec une majorité d'enseignants non fonctionnaires qui ont ces caractéristiques-là. Donc, un niveau académique relativement plus bas. Une formation initiale qui est soit inexistante ou de très courte durée. Au Mali, par exemple, c'était 45 jours, c'est-à-dire qu'on les recrutait. Ils ont 45 jours de ce que j'appelle de saupoudrage pédagogique et ils sont envoyés dans les classes. Le Sénégal, je pense qu'ils avaient commencé avec 3 mois. Ils sont ensuite passés à 6 mois. Donc, dans tous ces pays, il y a eu une réduction drastique de la durée de la formation initiale. Et ça, c'est pour faire face à la pression d'avoir beaucoup d'enseignants dans les salles de classe, mais en même temps, il y a un rationnel économique très fort derrière tout cela, parce que dans ces pays, le salaire est calculé en fonction du nombre d'années de scolarité qu'on a. Okay. Et pour réduire les coûts de la formation également, une des façons de faire, c'est de réduire le temps de la formation. Puisque c'est des formations résidentielles dans bien des cas. Donc, plus on réduit la durée de la formation, plus on peut en prendre plus. L'autre chose qui nous avait frappé, c'était les perspectives de carrière de ces enseignants. Et cela pouvait varier énormément à l'intérieur du même pays, dans la même école. Les contractuels de l'État, donc c'est des gens qui, dans certains pays, ont des perspectives, même si elles ne sont pas très bonnes, de faire carrière en enseignement. Mais dans la plupart des situations, c'est des contrats à durée déterminée, peut-être 1 an renouvelable ou 2 ans renouvelable. Donc, ils sont dans l'expectative, en général, ces enseignants. Et on va comprendre plus loin qu'est-ce que cela peut avoir comme effet dans l'engagement pour la profession. Et ça, j'en ai déjà parlé, c'est au niveau du traitement salarial. C'est des salaires généralement beaucoup plus bas et des avantages sociaux presque inexistants. Et je pense que dans le tableau suivant, je vous donne un peu comment ça, ça s'est distribué. Et là, j'ai surligné les quatre pays qui étaient dans, notre, dans l'étude. Je vous disais que le Burkina a réussi, en tout cas, à proposer un modèle où la différence n'est pas très grande. Hein. 5,8 du PIB par habitant contre 5,6 pour les enseignants non fonctionnels, les contractuels. Mais vous regardez le Niger, par exemple, 8,9 contre 3,5 pour les enseignants contractuels. En fait, au Sénégal, ils les appellent des volontaires. Ils ont commencé par un projet de volontaires de l'éducation au début des années 90. Et avec la pression de ce groupe, ils sont passés ensuite à des enseignants contractuels. Et ces gens ont continué à mettre la pression, ont réussi à se constituer en syndicat pour forcer le gouvernement à permettre une passerelle entre le statut de contractuel et le statut de fonctionnaire, avec des quotas annuels pour ce passage-là. Mais le Sénégal, la différence est quand même énorme aussi entre les fonctionnaires et les non-fonctionnaires. Donc, on se retrouve dans la même école avec des personnes qui font le même travail, qui ont à peu près le même nombre d'années de scolarité dans bien des cas, surtout au Sénégal, et un traitement salarial qui semble à toute fin pratique très inéquitable. Donc, concomitamment, j'en ai parlé déjà des changements importants au niveau de la formation. Okay, là, le Burkina, à la fin des années 80, début des années 90, on parlait quand même de 3 années de formation initiale. Ils étaient recrutés après 10 années d'éducation générale, c'est-à-dire 6 années de primaire et 4 au secondaire. Et ils avaient 3 années. Donc on a commencé à réduire. Et ils sont rendus actuellement à 9 mois de formation dans ces pays. Le Sénégal, comme je l'ai dit, ils ont commencé à 3 mois, ensuite ils sont passés à 6 mois. Le Mali, c'était intéressant, ils ont mis en place la SARP, c'est une stratégie alternative de recrutement du personnel enseignant de 45 jours de formation et ils se retrouvent dans les salles de classe. Et ces changements ne sont pas surprenants parce qu'ils sont vraiment en accord avec un rationnel économique qui a sous-tendu ces politiques, qui était un rationnel de contrôle de la masse salariale et en vue d'augmenter le nombre d'enseignants et par ricochet accéder, augmenter l'accès en tout cas à l'éducation. Et ce qui est, on a trouvé quand même particulier, c'est que ces organisations, notamment la banque, ont a posteriori commencé à chercher un rationnel pédagogique de quelque chose qui, somme toute, était économique au départ. Donc, ils ont commencé à commanditer des études, ou en tout cas à mettre en valeur des études qui montrent que, en fait, ben, quand on regarde de près les résultats des élèves qui sont enseignés par les non-fonctionnaires et les fonctionnaires, c'est pas mal la même chose. Et que même dans certains cas, les enfants qui sont tenus par des non-fonctionnaires ont une meilleure performance. Okay? Et cela a servi d'argument pour, en fait, continuer à réduire le temps de la formation initiale. Parce que ça veut dire que ben, la formation initiale ne sert pas. C'est le message que ça envoie. Que la formation initiale ne sert pas. On peut s'en passer et on va plutôt miser sur la formation continue. Ben, on sait que dans ces pays, le système de formation continue, en tout cas le système d'encadrement de proximité, ne marche pas parce que les structures déconcentrées n'ont pas les moyens de suivre les enseignants, des enseignants qui peuvent faire 5 ans sans voir un conseiller pédagogique ou un inspecteur dans leur classe. Donc, miser sur la formation continue pour compenser la formation initiale, ce n'est pas une bonne solution. En fait, les besoins de formation continue deviennent des besoins de formation initiale dans bien des cas. Puisque les gens sont recrutés, 45 jours, on les met sur le terrain. Donc, en fait, les besoins qu'ils ont, c'est des besoins de formation initiale, ce n'est pas des besoins de formation continue. Mais la démonstration questionnable de l'effet de ces maîtres fonctionnaires ou non fonctionnaires sur les apprentissages a servi à pousser, à justifier cette politique qui était vue comme une mesure provisoire. Et rapidement, les pays se sont retrouvés. Je pense qu'ils n'avaient pas anticipé. Je ne pense pas que le Mali, par exemple, ait anticipé que rapidement, ils allaient se retrouver avec 75%, presque 90% d'enseignants non fonctionnels. Donc, il n'y a pas eu d'anticipation de ce que cela créerait comme dynamique au niveau de la profession. Au Niger, c'est la même chose, au Sénégal. Et rapidement, cette masse critique au Sénégal, ils ont à un moment pris le système en otage carrément. Parce qu'ils sont devenus assez rapidement aussi nombreux, sinon plus nombreux, que les enseignants fonctionnaires. Cela dit, ça a permis quand même de faire des gains qu'on peut qualifier de significatif au niveau du taux brut de scolarisation. Et ce qu'on constate, surtout au Mali et au Niger, et il y a des estimations qui ont été faites par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, qui montrent effectivement que au Niger, ça a permis par exemple que 50% de plus d'enfants ont eu accès grâce à ces politiques de recrutement massif de contractuels. Au Mali, on parle de 231 640 enfants qui ont pu accéder ou qui n'auraient pas eu accès s'il n'y avait pas cette politique en place. Donc, de ce point de vue, la mesure, en tout cas la politique mise en place, a eu des effets positifs. Mais cela dit, si on s'inscrit dans l'esprit de la conférence de Dakar qui voulait une plus grande attention à la qualité, on peut se poser des questions. Et effectivement, que là, le Burkina, ça stagnait parce qu'il résistait à cette politique de contractualisation, juste 1% de plus avec ces enseignants-là. Mais il y a des incertitudes en ce qui concerne les indicateurs qualitatifs. Et là, il n'y a pas de consensus, c'est un débat qui est actuel sur les effets de ces politiques de défonctionnalisation. On constate quand même une régression du taux net de scolarisation au Sénégal. On constate au niveau du Niger comparativement au Burkina, en ce qui concerne le taux de redoublement, ça c'est un fléau dans ces pays également. On constate aussi au niveau du taux de réussite à l'examen terminal du primaire que le Burkina Faso s'en tirait mieux comparativement au Mali et au Sénégal. On regarde les évaluations des acquis faites par le PASEC, on constate des différences en faveur du pays qui n'a pas opté pour ces politiques. On ne peut pas tirer de conclusion pour dire que dans les pays où il y a plus d'enseignants non fonctionnaires, les résultats sont mauvais. C'est très facile de tirer cette conclusion. Et comme la Banque mondiale et d'autres organisations l'ont fait, lorsque les résultats montraient que les enfants tenus par des fonctionnaires et non fonctionnaires avaient des résultats équivalents. Mais ça amène quand même à se questionner sur les effets potentiels d'une telle politique, surtout si on pense aux caractéristiques dont j'ai parlé plus haut, une formation initiale plus courte, des perspectives de carrière incertaines, un traitement salarial inéquitable. On peut commencer à se poser des questions et peut-être faire des liens qu'on ne pouvait pas faire dans l'étude parce que ce n'était pas ces questions qu'on se posait. C'est en regardant les données qu'on s'est rendu compte de tout ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être tôt pour porter un jugement sur les effets de la contractualisation, quelle que soit la forme, sur la qualité de l'éducation dans ces quatre pays et d'autres pays aussi, parce que ça ne se limite pas à ces quatre pays, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, tous les pays francophones sont touchés par cela. Mais il y a des effets observables, au moins, sur la profession enseignante, notamment au niveau de la composition et de l'attraction que cette profession exerce, et surtout au niveau de la rétention de ces personnels-là. Et c'est de ça que je veux parler maintenant. Le plus visible, selon les données qu'on a pu collecter, c'est la segmentation du corps enseignant. J'en ai déjà parlé, au Mali, c'est une inversion totale en 5 ans. En 2006-2007, on était à 86. Je suis pari qu'on est au moins à 90% actuellement. Et ça va se poursuivre. Mais en même temps, qu'est-ce que le système fait pour gérer cette inversion. J'ai l'intuition, en tout cas, que au plan sociologique, cela doit créer, en tout cas, des dynamiques particulières. Et ce qu'on n'a pas pu creuser dans notre étude, parce que l'étude n'était pas conçue pour ça. Au Niger, c'est la même chose. En 2006-2007, ils étaient à 77%, alors qu'ils sont partis à 4,6% de non-fonctionnaires en 97. 98. Donc, en l'espace de 10 ans à peu près, on a une inversion totale. Le Sénégal, c'est la même chose. Et le Burkina, comme je l'ai dit, à partir de 2002-2003, il y a une accélération au point où en 2006-2007, ils sont à presque 70% d'enseignants non fonctionnaires, c'est-à-dire les contractuels de l'État et peut-être quelques enseignants communautaire. Mais il y a des effets moins visibles, mais qui pour nous sont tout aussi importants. Et un de ces effets, c'est l'association apparente qu'on a pu voir entre l'âge et le statut dans les deux pays pour lesquels on a des données comparables, notamment le Mali et le Sénégal. Pour les autres pays, on n'avait pas de données comparables. Et également une association apparente entre le statut et le nombre d'années d'expérience. Mais ça, ce n'est pas très surprenant, en fait. Et on voit effectivement que les non-fonctionnaires sont beaucoup plus jeunes, mais ça ne nous surprend pas. Mais cela peut poser des problèmes à long terme. Et je vais également en parler tout à l'heure. Des effets également sur le niveau académique, et ça, ce n'est pas surprenant, étant donné la caractéristique principale de ces enseignants, qui est un niveau relativement plus bas, sauf au Sénégal. Ça, c'est intéressant parce que le Sénégal... lorsqu'ils se sont embarqués dans ces politiques en 92, ça s'appelait le projet des volontaires de l'éducation nationale et c'était présenté comme un projet de la Banque mondiale. Et qui dit Banque mondiale, ben, on pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Donc il y a pas mal et ça coïncidait aussi avec ce qui s'est passé sur le marché du travail. Hein. Il y avait beaucoup de chômeurs, c'est-à-dire des gens qui ont terminé le secondaire, des gens qui ont peut-être fait 2 ou 3 ans à l'université, qui n'avaient pas de possibilité de se placer. Donc ce sont ces personnes-là qui ont répondu à ce projet des volontaires de l'éducation nationale. Donc c'est ce qui fait qu'en fait au Sénégal, la politique a eu un effet positif au niveau, en ce qui concerne le niveau académique de ces personnels-là. Mais dans les autres pays, c'est soit mitigé, ou très limité ou négatif, où effectivement on va recruter des gens qui ont 8 années de scolarité, à qui on fait une petite formation et on les envoie dans les classes. Au niveau de la qualification professionnelle, à partir des données qu'on a pu avoir. L'effet au Niger est négatif. En ce qui concerne le Mali, la majorité, effectivement, de ces enseignants, 45 jours de formation, on ne peut pas dire que c'est des gens qui sont professionnellement qualifiés. Okay. Quel que soit le contenu et les modalités de cette formation, à mon avis. L'autre aspect des effets, c'est l'attrait de la profession et la rétention du personnel. Il y a une question de base à laquelle il faut répondre, à laquelle sur laquelle on a attiré l'attention de des ministères. C'est que lorsqu'on conjugue des perspectives de carrière incertaines, sinon absentes totalement, la question c'est combien de temps ces personnes vont rester dans la profession, leur niveau d'engagement pour la profession. Et il n'y a pas de réponse toute faite ou tranchée à cette question, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même une grande instabilité au niveau des écoles dans ce pays. La gestion de ce personnel est très difficile parce qu'ils ont des contrats renouvelables ou non renouvelables. Dès qu'ils trouvent mieux, ils s'en vont. Et quand on dit qu'ils s'en vont, souvent, ce n'est pas un ou deux. Il peut arriver que ce soit vraiment un grand nombre qui s'en va du coup en pleine année scolaire. Okay. Cela dit, pour revenir au rationnel pédagogique qui a été mis de l'avant, la banque nous dit, bah oui, ces enseignants sont du terroir. Ils connaissent la communauté les connaît. Ils ont plus d'affinité avec les enfants, et c'est ce qui peut expliquer que les enfants aient une performance égale aux enfants qui sont tenus par des enseignants fonctionnaires. Mais je ne pense pas qu'on puisse généraliser cela à tout ce personnel-là. C'est vrai que des gens qui sont recrutés dans le village avec seulement 8 années de scolarité, bien sûr qu'ils connaissent le contexte, ils ont peut-être un engagement fort à l'égard des enfants qu'ils tiennent, mais au-delà de l'engagement, ça prend quand même une maîtrise des connaissances, ça prend des façons de faire pour amener les enfants à s'approprier ces contenus qu'on souhaite qu'ils acquièrent. Et au Sénégal, en particulier, sur le niveau académique, ce qu'on a pu voir notamment dans les entrevues, c'est que cela va de pair avec des aspirations professionnelles plus grandes. Autrement dit, ce n'est pas des gens qui vont... ça veut dire qu'ils vont partir, ils ne vont pas quitter le secteur de l'éducation, mais ils vont, par exemple, partir du primaire vers le secondaire, surtout les universitaires, ceux qui sont venus au projet de volontaires parce que ils ne trouvaient pas mieux ailleurs, mais ils sont là en attendant des possibilités d'un mouvement vertical dans le système pour aller en enseignement secondaire, par exemple. Et là, je vous ai mis quelques citations tirées d'entrevues, notamment au Sénégal, où on nous dit effectivement que près de 50% ne souhaitent pas du tout demeurer en enseignement primaire, et plus de 70% souhaiteraient passer à un autre niveau. Et un autre niveau, en général, c'est l'enseignement secondaire pour ces personnes-là.
Qui correspond d'office à un autre niveau de rémunération?
C'est un autre niveau de rémunération, d'office. C'est un autre niveau. C'est ça qui est intéressant dans ce pays, c'est-à-dire que le système est segmenté non seulement à l'intérieur du même cycle, mais en cycle. C'est-à-dire que les enseignants du secondaire, ça n'a rien à voir avec les enseignants du primaire en termes d'exigence à l'entrée, mais en termes de traitement salarial et également en termes de statut social. C'est vraiment deux groupes totalement différents. Donc on peut comprendre que ces universitaires qui sont venus par défaut à l'enseignement primaire veuillent plutôt accéder à l'enseignement secondaire dans ces pays-là. Oui. Oui. Ah, non, c'était vraiment au primaire. Mais en fait, au secondaire, on a une... au secondaire, dans le public, c'est des fonctionnaires. Ouais. Mais on a une... Parce que l'enseignement privé s'est beaucoup développé au secondaire dans ces pays-là. Et donc, et dans certains pays, effectivement, l'enseignement privé secondaire représente 50%, sinon plus, de l'offre au niveau du pays. Donc, ça fait... que la pression sur l'État est moins grande au secondaire en termes du personnel, puisque le privé prend en charge une bonne partie du personnel. Oui.
Juste une question, parce que vous soulevez la question des compétences, mais qui peuvent être didactiques, pédagogiques.
Oui.
Les systèmes étant vraiment calqués sur le système français, est-ce qu'au secondaire, c'est la même chose, c'est-à-dire que du moment que tu as un diplôme de premier cycle universitaire dans quoi que ce soit, tu es jugé compétent pour l'enseignement.
C'est ça.
Tu peux être parfaitement nul en pédagogie, mais c'est pas grave.
Oui. C'est ça, effectivement. C'est-à-dire que, mais surtout au privé, je dirais, mais dans les écoles secondaires publiques, il y a quand même les écoles normales supérieures, c'est leur travail principal, de former les enseignants du secondaire. Mais la formation, c'est dépendamment du niveau d'entrée, ce soit un ou deux ans, selon qu'on entre avec le DEUG, c'est-à-dire le diplôme d'études universitaires générales, c'est-à-dire deux ans, ou qu'on entre avec la licence ou la maîtrise, on va faire une formation de deux. D'un an ou deux ans. Okay. Et c'est des formations qui sont effectivement plutôt disciplinaires pour ces gens-là. Mais dans les écoles privées, on retrouve pas mal d'enseignants, en tout cas au secondaire, qui ont effectivement un diplôme académique, tout simplement. Et ça pose toute une autre problématique de la réticence des fondateurs ou en tout cas des responsables de ces écoles privées de permettre, de soutenir en tout cas la formation professionnelle de leurs enseignants, parce que ça vient avec des revendications salariales, avec la possibilité aussi d'aller ailleurs, etc. Donc ça fait qu'on a un système, je dirais, à deux vitesses au niveau en tout cas du personnel enseignant dans ces pays-là. Et c'était le Sénégal, au Niger, je pense, au Mali, c'est la même chose. Oui, où les contractuels, effectivement, qui se caractérisent par cette instabilité. Mais je crois que les décideurs politiques, je ne pense pas qu'ils comprennent les effets potentiels de cette instabilité-là. Ils voient ça comme des problèmes de gestion, tout court, mais quelles sont les implications au niveau des apprentissages? Ça ne semble pas les émouvoir outre mesure, en tout cas, parce que la préoccupation, c'est de s'assurer qu'il y a un enseignant dans la classe. Point. Okay? Mais l'instabilité, le roulement du personnel, l'effet que cela peut avoir, en tout cas, on ne le voit pas dans le discours comme préoccupation qu'on pourrait avoir. La même chose au Niger, je pense, oui. Voilà. Donc, dans les prochaines diapositives, j'essaie de réfléchir et de faire des liens entre tout ça et ce qui se passe dans la littérature ailleurs. Notamment en lien avec des modèles ou deux modèles que l'OCDE a mis de l'avant pour gérer l'emploi. Des enseignants. Donc c'est dans le rapport de l'étude sur attirer, je ne me rappelle pas, c'est attirer, former, retenir. Là. C'est dans ce rapport qu'ils ont proposé deux modèles qui me semblent tout à fait pertinents. C'est un modèle de gestion axé sur la carrière et un modèle de gestion axé sur le poste. Okay. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun pays qui est un exemple d'un modèle pur axé sur la carrière ou axé sur le poste. Il y a toujours un peu de chaque modèle. La question, c'est la proportion. Okay? Et il me semble que cette question, les décideurs ne s'étaient pas posés au départ. C'est-à-dire, oui, on peut, dans un modèle axé sur la carrière, on peut avoir des enseignants qui sont recrutés selon le modèle par poste. Mais la question, c'est quelle est la proportion souhaitable et raisonnable dans un système éducatif. Et ça, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question. Mais sauf que ce qu'on voit dans ces quatre pays, c'est que pendant les trois premières décennies de leur indépendance, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à la fin des années, au milieu des années 90 à peu près, c'est le modèle axé sur la carrière qui a dominé. Okay. Et ça, c'est un peu l'héritage de la colonie où c'était le fonctionnariat. On va à l'école et tout est presque tracé, on devient fonctionnaire. Donc c'est un modèle qui a dominé pendant longtemps. Mais depuis les années 90, ce qu'on voit, c'est une cohabitation que j'appelle problématique de ce modèle axé sur la carrière et d'un modèle de contractualisation qui n'est pas tout à fait le modèle axé sur le poste. Mais on sait qu'il y a une tendance vers la domination du second modèle, du modèle axé sur le poste. Mais ils ne le définissent pas comme ça. C'est-à-dire que, parce que dans le modèle axé sur le poste, on va recruter selon les besoins, selon le profil dans un poste donné. Dans ces pays, c'est plus un modèle de contractualisation, mais qui n'est pas lié nécessairement à un profil pour un poste donné. C'est-à-dire qu'on prend ceux qui sont disponibles et qui sont prêts effectivement à accepter ces salaires-là. Donc ce qu'on a mis de l'avant, c'est qu'il y a un besoin quand même de clarifier les termes de cette cohabitation, des deux modèles. Et je pense vraiment qu'il faut se pencher sur cette question de quelle est la proportion souhaitable. Est-ce qu'on veut un corps enseignant qui est à 90% constitué d'enseignants non fonctionnaires, d'enseignants qui sont des contractuels de l'État ou qui sont des enseignants communautaires? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Si oui, quelles sont les implications? Comment est-ce qu'on va gérer la carrière, en tout cas les perspectives de carrière de ces personnes-là? Ou on accepte que n'y a pas de perspective de carrière, on recrute les gens, quand ils sont prêts à partir, ils s'en vont. Mais là, il y a des conséquences au niveau de la stabilité du personnel dans certaines écoles, surtout lorsque on a en même temps une politique qui demande à tous les débutants de passer un certain nombre d'années dans des zones dans les zones rurales ou les zones éloignées. Donc ça pose des questions d'équité dans le système, c'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'on va se retrouver avec les enseignants les plus expérimentés dans les centres urbains, ou en tout cas ou périurbains, et on se ramasse avec des enseignants qui sont de passage, en fait, dans les zones rurales. Mais on sait que la scolarisation, l'universalisation de la scolarisation au primaire va dépendre beaucoup du développement dans les zones rurales. Parce que dans les zones urbaines, notamment les capitales, souvent ils sont à 100-105% de taux brut de scolarisation. Donc ce n'est pas là que le problème se situe. Le problème se situe plus dans les zones reculées ou difficiles d'accès, les zones rurales notamment. Mais on sait également que plus on s'éloigne pour rejoindre ces populations, il y a des coûts marginaux qui viennent avec cela. Donc, comment est-ce qu'on intègre tous ces coûts dans nos politiques? Et on n'a pas eu, en tout cas, l'impression que tout cela a été pris en considération. C'est comme si les ministères étaient dans une position très réactive face à cet objectif auquel tout le monde a souscrit, qui a mis beaucoup de pression. Et on a trouvé une façon de faire, mais on n'a pas réfléchi à long terme sur comment est-ce que cela va changer le paysage éducatif, comment cela va changer la dynamique et l'évolution du corps enseignant. Il a manqué, à mon avis, cette préoccupation. Également, ce qu'on a constaté, et ça, on n'est pas sûr des données, c'est que le taux d'abandon en tout cas le taux de déperdition parmi ces enseignants est très élevé. Mais ça, il va falloir le documenter de façon plus systématique. Autrement dit, les départs ou les, en tout cas les abandons pour des raisons autres que le départ à la retraite. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, parmi cette catégorie, la tendance est à la hausse par rapport aux anciens fonctionnaires qui n'ont aucun intérêt effectivement à quitter puisque la carrière est assurée, même si le salaire n'est pas très bon, mais au moins il est régulier parce qu'un des problèmes de ces contractuels, c'est souvent les retards assez importants au niveau salarial. Hein. Et on a vu des histoires assez problématiques où ces enseignants passent à peu près le tiers de leur temps à courir, à se déplacer pour avoir leur salaire, surtout pour les contractuels de l'État qui se retrouvent en zone rurale où il n'y a pas de système bancaire fiable, donc il faut se déplacer, aller émarger pour avoir son salaire. Donc c'est les déplacements qui, effectivement, amputent le temps d'enseignement. Donc ça soulève d'autres questions qui ont, à mon avis, des liens avec les questions de qualité auxquelles il faut faire attention. Et ce qu'on disait également, c'est que le risque encouru dans une telle gestion, c'est d'aboutir à une situation où la jeunesse et l'inexpérience professionnelle deviennent des caractéristiques constantes. Autrement dit, il n'y a pas de problème à renouveler le corps, à ce qu'il y ait de nouveau. Ça amène du nouveau sang, de nouvelles idées, etc. Mais ça devient un problème quand c'est une caractéristique constante où, à cause justement du roulement, on a constamment, au niveau de la même école, un groupe important d'enseignants qui sont jeunes, qui sont inexpérimentés, qui sont en plus peu ou pas formés professionnellement, qui ont un niveau académique relativement bas, et donc et ça tourne. Et l'effet, en tout cas quand on se réfère aux travaux de Huberman, c'est effectivement l'absence d'accumulation d'expérience ou de développement d'une expertise collective qui permet justement aux anciens de prendre en charge les nouveaux qui arrivent. Comme je l'ai dit, on mise sur la formation continue de l'encadrement de proximité, mais pour miser sur cela, dans la mesure où les structures déconcentrées de supervision n'ont pas les moyens, c'est au niveau de l'école que ça se passe. Mais si dans l'école, on n'a que des gens expérimentés, c'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir une prise en charge valable au niveau des écoles. Ok, mais ça, je l'ai déjà dit. Il y a d'autres raisons de se préoccuper. C'est que si la jeunesse et l'inexpérience sont en plus associés à un niveau académique relativement plus bas, là on a un problème. Si on se fie en tout cas à ce que la littérature nous dit sur l'effet maître, on sait que la connaissance de la matière est fortement associée à l'apprentissage. On sait également que l'effet est à la fois cumulatif et résiduel. On sait également que l'effet maître ou l'effet enseignant est plus élevé en Afrique subsaharienne qu'il est dans les pays développés. Et la raison est assez simple dans ces pays, en tout cas dans la majorité, c'est qu'effectivement, l'école est le principal lieu d'acquisition des connaissances qui sont sanctionnées par le système scolaire. C'est-à-dire, une fois que les enfants quittent l'école, ce n'est pas comme ici où ils ont accès à d'autres canaux qui leur permettent d'apprendre. Dans bien de ces pays, surtout en zone rurale, l'école, c'est le seul endroit où on a accès, où on est exposé en tout cas aux connaissances qui sont valorisées, qui sont sanctionnées par le système scolaire. Et donc, ce n'est pas étonnant que l'effet enseignant soit plus élevé dans ce contexte-là. Mais si tel est le cas, on a un problème, étant donné ces caractéristiques que j'ai décrites plus haut. Donc, ce qu'on avait mis de l'avant, c'est que la défonctionnalisation ou la contractualisation sans perspective de carrière ne nous semblait pas, en tout cas, une bonne voie. En tout cas, elle semble sans issue pour ces pays. Et on avait trouvé les expériences du Sénégal et du Burkina intéressantes comme source d'inspiration possible pour ces pays. Comme je l'ai dit, au Sénégal, ils ont commencé par des volontaires avec la pression. Ils ont créé la catégorie des contractuels. Plus de pression, ils ont permis une passerelle des contractuels aux fonctionnaires. Le Burkina, eux, ont pris un modèle où tout le monde est contractuel. Et c'est clair, mais en même temps, ils ont quand même des avantages sociaux, un salaire presque équivalent au salaire des fonctionnaires. Et donc, c'est des deux modèles intéressants. Et ça, je l'ai déjà dit. Et l'autre chose, effectivement, la question de la formation initiale. Parce que, étant donné que la formation continue n'est vraiment pas effective, très souvent la formation initiale est la seule opportunité d'apprentissage structuré que ces enseignants peuvent avoir. Donc, autrement dit, il faut s'assurer qu'ils ont une formation initiale qui ait de l'allure avant de les lâcher, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont sur le terrain, ça peut prendre des années avant qu'ils aient des opportunités de continuer à se développer. Donc, ce qu'on avait mis de l'avant aussi, c'est qu'il faut plutôt chercher à améliorer la formation initiale. À mon avis, les études qui montrent que les résultats des enfants, quel que soit la catégorie d'enseignants sont les mêmes, mais AMEN devrait plutôt amener à questionner la formation initiale, à voir comment on peut l'améliorer et non utiliser cela comme un prétexte pour s'en débarrasser totalement ou réduire le temps au point où on ne peut pas faire quelque chose de valable. Je ne pense pas qu'en 45 jours, on puisse valablement préparer un enseignant pour faire face à des élèves. Et ce qui est, je trouve, déplorable aussi, c'est que c'est des mesures quand même qui sont imposées dans des systèmes. Et en même temps, on tient un discours de compétitivité. Dans pas mal de pays, on ne peut pas mettre le pied dans une salle de classe si on n'a pas un bac en enseignement. Et c'est les mêmes personnes qui se retournent, qui demandent à ces pays pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas les moyens, mais je ne pense pas que cela suffise pour, je dirais, déstabiliser à ce point les systèmes de formation initiale, à déstabiliser à ce point une profession qui est somme toute stratégique dans un système. Ça frise presque le suicide social de traiter l'éducation de cette façon pour des raisons économiques. Et c'est-à-dire à long terme, on finit par payer le prix, à mon avis. Donc, je termine avec des réflexions pour la suite. Comme j'ai dit, on n'a pas pu avoir des données comparables sur tous les pays, mais ce qu'on on a proposé ou que je continue de mettre de l'avant, c'est qu'il faut vraiment régulièrement et de façon systématique collecter et analyser des données, mais désagréger selon le statut et le genre sur au moins ces trois éléments. Les déperditions, les changements dans la composition du corps et la distribution géographique. Ça me semble particulièrement important au niveau de l'équité. Si on veut parler d'équité dans les systèmes, il faut une équité dans la distribution des enseignants. Parce que très souvent, dans les capitales, on se retrouve avec un surnombre d'enseignants expérimenter, parce que tout le monde veut être à la capitale. Et dans les zones rurales ou éloignées, difficiles d'accès, on se retrouve effectivement avec ces enseignants avec les caractéristiques que j'ai décrites plus haut. En somme, et là je termine, j'avais mis ça de l'avant et proposé à l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Ils avaient trouvé intéressant l'idée d'un observatoire de la profession enseignante dans les pays concernés, ben, en lien avec toute la dynamique et la performance des systèmes. Ben, c'est un chantier proposé, mais qui est en attente. Hein. L'ADA, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que j'ai proposé. Ils ont trouvé l'idée intéressante, mais complexe à mettre en œuvre, mais aussi parce que ça ne répond pas à des problèmes très présents et pressants aussi. Mais en même temps, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose de ce côté. Sur divers plans, au plan sociologique, au plan de la profession, au plan des apprentissages, je pense qu'il y a tout un chantier qu'on pourrait ouvrir dans ce sens-là. Et à l'époque, quand je l'avais proposé, je n'étais pas au courant des grands travaux, l'étude pan-canadienne que le CRIFPE a faite. Mais pour moi, c'est un bon modèle, c'est une source d'inspiration pour un tel travail. Je suis conscient de la complexité, mais il me semble qu'il y a là des opportunités intéressantes. Et l'intention, en tout cas, que j'ai, c'est durant mon congé sabbatique qui va arriver bientôt, j'espère, ce serait vraiment de plancher sur ça et trouver les ressources pour le faire. Voilà, je pense que c'est terminé.